Chers amis, nous vous saluons pour cette émission de la série « Se trouver soi-même, des paroles pour la vie ». Une phrase à elle seule peut nous donner de l'espoir. Dans cette émission, nous lirons différents chapitres d'un livre de Gabriel, la prophétesse et messagère de Dieu à notre époque, qui s'intitule « La mort fait partie de notre vie, vivre et mourir pour continuer à vivre, chacun est seul face à la mort ». Gabriel introduit son livre avec ces mots. La mort est la nuit de l'âme. Mourir en présence de la vie éternelle signifie pour l'âme le jour éternel. Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent se libérer de la peur de la mort et parvenir à une vie consciente, à la sécurité, à la confiance et à la force intérieure. Nous commençons la lecture du premier chapitre qui porte le titre suivant. Un mot humain est un concept qui peut renfermer bien des contenus. Gabriel écrit : Chers amis, notre société s'est créée au fil des siècles une vision du monde qui, finalement, n'est axée que sur l'ici-bas, dans laquelle se reflètent l'espace et le temps. La pensée et la vie de la plupart des gens se limitent à ce qui se déroule dans l'espace et le temps. Ils assimilent la vie à ce qui se passe dans l'ici-bas, à notre présence sur Terre. Gabriel poursuit. Dans ce livre, j'aimerais essayer d'expliquer en quoi consiste l'ici-bas, c'est-à-dire notre présence sur Terre, de sorte que tous ceux qui cherchent vraiment la vérité puissent mieux comprendre ce qui est contenu dans les mots que nous employons et ce que ceux-ci ont à nous dire, lorsque nous disons par exemple « vivre et mourir pour continuer à vivre » ou encore lorsque nous parlons de la mort. Si c'est si important, c'est parce que nous communiquons entre nous par le langage, donc par des mots. Bien souvent, nous ne savons pourtant pas si nos semblables nous comprennent, car ce moyen de communication qu'est le langage humain transmet les informations de façon indirecte dans les contenants que sont les mots. Les êtres spirituels purs, dans l'existence éternelle, eux, ont une communication directe qui a lieu grâce à la sensation primordiale, qui est en même temps image. Dans le monde matériel, les formes de vie de la nature qui ne sont pas chargées par le péché, autrement dit les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre-mère, les astres, les forces élémentaires, communiquent également entre eux par image.
Gabriel poursuit ses explications. À l'opposé, les êtres humains ayant quitté le courant universel divin de l'amour et de l'unité universelle et étant contraints pour cette raison d'avoir recours au langage et aux mots, ne peuvent jamais avoir la certitude que leurs semblables perçoivent à travers leurs paroles ce qu'ils ont cherché à exprimer, ce qu'ils ont voulu transmettre. Les mots sont des contenants, des coquilles, pouvant contenir toute une palette de significations en fonction de ce qui dépose celui qui les exprime. C'est ce qu'il exprime à travers la coquille du mot. Toutefois, dans la mesure où la plupart du temps nous n'avons pas conscience de ce que nous déposons dans nos paroles, pas plus que des sensations, sentiments, intentions et ambitions qui se cache derrière nos pensées, nous ne sommes généralement pas non plus en mesure de ressentir à l'intérieur des paroles de nos prochains et d'en saisir le contenu. Ainsi, il n'est pas rare que nous ne comprenions pas ce que les autres nous disent. Ceci vaut également pour le langage écrit. Gabriel ajoute ici : C'est pour cette raison qu'il est également difficile pour moi d'exposer et de décrire au moyen des mots, et de telle sorte que cela atteigne le cœur et l'entendement des chercheurs de vérité, ce que je sais, ce que je vois dans le monde à travers les yeux de l'esprit, et tout ce qui m'est montré de l'au-delà par la perception intérieure spirituelle et qui est visible pour moi en tant qu'instrument de Dieu. Pour autant, je vais m'y efforcer.
Le prochain chapitre de notre livre porte le titre suivant « Le plus souvent, nous refoulons l'idée de la mort ». Voici ce qu'explique Gabriel à ce sujet. Comme nous venons de le voir, la signification des mots que nous employons peut varier. Ils sont en quelque sorte élastiques. C'est également le cas des mots « ici-bas » et « au-delà ». Pour beaucoup de gens, l'au-delà n'est pas une réalité, car cela relève pour eux de la croyance, c'est-à-dire de la religion. Or, la plupart des gens attribuent une dimension irréelle, hypothétique, à la religion. Pour eux, tout particulièrement la mort, la fin de l'existence, la fin de ce qu'ils considèrent comme leur vie, est accompagné du souffle glacial de l'incompréhensible, de l'énigmatique, de l'inconcevable et parfois même de l'horrible. C'est la raison pour laquelle l'idée de la mort est bien souvent refoulée. Cependant, tôt ou tard, chacun de nous réfléchira à sa vie et à l'idée de la mort, surtout s'il examine son passé. En effet, la voix de notre conscience, qui peut alors se faire très insistante, ne nous permet pas toujours d'avoir la paix dans l'âme. Nous poursuivons la lecture du livre de Gabriel. Elle dit « Les jeunes et ceux qui le sont moins, mais qui s'imaginent devoir vivre une « seconde jeunesse », entre guillemets, refusent bien souvent de se demander combien de temps il leur reste à vivre parce qu'ils pensent qu'ils auront bien le temps de penser à la mort le moment venu. Pourtant, qui sait quand la mort viendra lui signifier que l'aiguille de l'horloge de sa vie doit s'arrêter et que l'énergie reçue pour cette incarnation est épuisée? Personne n'en connaît le jour ni l'heure. Cependant, une chose est sûre, cette heure viendra et apportera inévitablement avec elle des questions comme « Qu'est-ce que la mort pour moi ? Comment l'aborder ? Comment cela va-t-il se passer ? Quelle conception ai-je à ce sujet ? M'y suis-je préparé ?
Le prochain chapitre s'intitule « La mort spirituelle, c'est être aveugle spirituellement, c'est vivre dans l'obscurité, dans l'irréalité. » Gabriel écrit à ce sujet « Pour moi qui suis une femme de l'esprit et qui aborde les situations et les événements liés à la vie terrestre du point de vue de l'esprit éternel, c'est-à-dire de la vie, la mort est l'état d'une âme qui a rétréci et obscurci sa conscience, vaste à l'origine, en raison de sentiments, sensations, pensées, paroles et actes contraires à la loi de Dieu, qui est amour, qui donne de manière désintéressée. Celui qui dit non à Dieu, la vie, s'est fermé à la lumière. Il a élu domicile dans le royaume de l'obscurité, dans l'ignorance spirituelle, dans l'irréalité. Il ne perçoit plus la vie en tant que telle. Il est spirituellement aveugle, c'est-à-dire spirituellement mort. La mort, c'est donc l'obscurité de l'âme. Celui qui se trouve face à la mort parce qu'ils considèrent la fin de l'existence terrestre comme la mort, comme la fin de la vie, celui donc qui ne croit pas que la vie se poursuit dans l'au-delà est spirituellement mort. Il est lié, accroché au monde terrestre et matériel. Il a recouvert la vie véritable de ses propres conceptions, idées et comportements superficiels. Étant donné que beaucoup de personnes considèrent la mort comme la fin de toute vie, il y a ici-bas sur Terre un grand nombre de personnes spirituellement mortes et dans l'au-delà, beaucoup, oui, énormément d'âmes spirituellement mortes.
Écoutons les explications profondes données par Gabriel dans le chapitre suivant, qui s'intitule « La vie est un courant intarissable d'énergie divine, c'est-à-dire de force et de lumière. Enfoui au plus profond de l'être humain se trouve l'être de lumière, issu de Dieu. La vie ne peut pas arrêter de vivre. La vie est un intarissable courant de lumière, d'énergie divine qui s'écoule continuellement. Aucune énergie ne se perd. Lorsqu'il a créé ses enfants, Dieu, le sage universel, a fait d'eux des êtres de lumière, leur donnant un corps d'énergie lumineux semblable à son propre corps de lumière éternelle, à la conscience du Père éternel. Au cours des éons, quelques-uns de ces êtres de lumière, tout d'abord, puis de plus en plus, s'éloignèrent de Dieu, la lumière. Ce faisant, leur corps de lumière s'obscurcit. La loi, Dieu, comprenant le libre arbitre pour tous ses enfants, l'Éternel concéda à tous les êtres de lumière qui s'étaient détournés et éloigné de lui un habit terrestre que nous appelons corps physique ou encore être humain. Celui-ci permet aux enfants de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu jadis purs et de matière subtile lumineuse, de séjourner dans le monde de la matière sur la terre et de s'y déplacer. Cela signifie que l'être humain, tel que nous le percevons avec nos sens physiques, ne se limite pas à son enveloppe. En lui habite un être de lumière qui, suite à son éloignement de la loi cosmique pure, est appelé âme. Gabriel poursuit ses explications. En agissant contre les lois de Dieu, et en fin de compte également contre lui-même en tant qu'être divin, l'être humain a recouvert l'être de lumière. Au fur et à mesure de ce processus, l'habit, l'homme, est devenu de plus en plus dense, de plus en plus grossier. Les termes « homme », « terre », « cosmos », « matière » ne sont également que des concepts qui éveillent en chacun de nous des images et des idées différentes. Toutefois, celui qui ne réfléchit pas sérieusement à ces facteurs ne verra pas les choses telles qu'elles sont vraiment, mais comme il a envie de les voir. De ce fait, il étouffe sa conscience.
Dans le chapitre qui suit, Gabriel va plus loin encore. En voici le titre. À travers les impulsions positives de sa conscience, c'est Dieu, la vie, qui parle à l'homme. N'y a-t-il pas de vie après la vie sur terre? L'ignorance spirituelle est un cachot pour notre âme. Lorsqu'il est question de la conscience, une question s'impose. Qu'est-ce que la conscience? S'agit-il d'une réaction chimique ayant lieu dans le cerveau et qui, par l'intermédiaire de neurotransmetteurs, se manifeste à travers notre système nerveux? Les scientifiques de tous bords auront certainement encore bien d'autres explications à fournir. Quoi qu'il en soit, les impulsions divines de notre conscience, conformes aux lois célestes, donc positives, nous parviennent par l'intermédiaire de notre âme. Il en est ainsi. Le divin qui nous exhorte, qui frappe à la porte de notre conscience, c'est l'Esprit éternel qui est la vie éternelle. Il frappe à la porte de notre entendement pour nous montrer que ce qui importe n'est pas le savoir intellectuel, mais la sagesse, la vie. Beaucoup sont brillants dans l'art de trouver des échappatoires ou de convaincre leurs prochains en tenant de grands discours. Au moyen de subtiles conclusions rationalistes et de jugements fallacieux, ils élaborent un système de pensée complexe et tortueux qui ne laisse pas seulement Dieu et son action de côté, mais le présente comme absolument superflu. Pourtant, quelles que soient leurs arguties intellectuelles au sujet de la conscience, la mort et la fin de la vie, Dieu existe et continuera d'exister. Il est la vie, le créateur du cosmos pur, de toutes les formes d'existence et des êtres de lumière. C'est lui aussi qui anime de son souffle et maintient en vie toutes les formes de vie enveloppées dans la matière. Ceux qui prétendent que nous n'avons qu'une seule vie et qu'elle se déroule dans la matière devraient se demander dans quel but alors avons-nous une conscience? Et aussi pourquoi aurait-on alors besoin de valeurs élevées comme l'éthique, la morale? En effet, si la vie matérielle, l'existence physique, est la seule chose qui existe et est mise sur un piédestal, à quoi servirait-il alors de chercher à atteindre, en pensée et en acte, la bonté, la noblesse et le désintéressement? Certains diront que c'est précisément parce que nous sommes des êtres humains que nous devons nous imposer des valeurs élevées. Mais à quoi bon si nous ne vivons qu'une seule fois? En réalité, cette hypothèse ne conduit-elle pas plutôt à la loi du plus fort? Et pour cela, nul besoin de conscience.
Nous poursuivons la lecture du livre de Gabriel. Comme cela a déjà été indiqué, la conscience va au-delà de ce que nos sens peuvent saisir. Elle est du domaine métaphysique. Elle provient de la source primordiale de l'âme, de l'Esprit de Dieu, et se transmet à nous par l'intermédiaire de notre âme. La conscience porte en elle la force de la vie. À travers la conscience, c'est la loi absolue, le divin, qui agit et évalue selon la mesure de l'absolu. C'est pourquoi, pour autant que notre conscience soit encore intacte et active, elle agit en nous comme un indicateur et un conseiller, nous montrant comment faire le bien. Ainsi, si nous sommes à l'écoute du divin, de la voix de notre conscience, elle nous conduit à la maison, dans la patrie éternelle, dans l'absolu, dans l'existence spirituelle pure d'où nous sommes venus et où nous vivrons à nouveau un jour pour l'éternité. Pour s'y rendre, le chemin de l'âme passe par l'au-delà, par les plans de purification. Nous pouvons faire valoir quantité d'arguments pour nous opposer à cela. Nous pouvons obscurcir notre conscience, voire même la réduire au silence, en affirmant qu'il n'y a pas de vie après la vie terrestre. Notre ignorance ne change rien au fait que malgré tout, chaque être humain porte en lui une âme éternelle qui, en dehors du temps et de l'espace, sera un jour confrontée au mur de brouillard impénétrable. Pourquoi ? Parce que, en tant qu'être humain, elle se sera enfermée dans la prison du « je ne veux pas savoir » ou, derrière l'excuse facile du « il n'y a que l'ici-bas, l'au-delà n'existe pas, par laquelle l'homme refuse sa responsabilité devant Dieu. Celui qui commence à réfléchir au sens profond de l'expression « vivre pour continuer à vivre » et au terme « conscience » se libère progressivement de l'obscurité, du flou et du mystère que la plupart des gens associent encore à la mort. Gabriel poursuit ses explications. Pour beaucoup, le contenu du mot « mort » est uniquement synonyme d'embûche, que certains qualifient de fin. Le mot « mort » contient un chemin de souffrance qui est voilé et qui, s'il ne commence pas déjà ici-bas, débutera en tout cas dans l'au-delà, au moment où l'âme est confrontée à la spirale de sa vie. L'ignorance spirituelle est toujours synonyme d'obscurité, d'éloignement de la lumière. La compréhension d'une personne qui vit dans l'ignorance spirituelle est limitée aux trois dimensions. Elle est incapable de saisir la portée de ses sensations, de ses pensées et de ses actes. Elle se croit libre et en sécurité, alors qu'elle est dans l'illusion, car ce que l'homme sème, il le récoltera. Au contraire, mourir consciemment signifie regarder en direction de la lumière, et pour l'âme, passer en douceur de l'autre côté, dans la vie éternelle qui ne connaît ni mort ni ténèbres. Chers amis, c'est avec ces mots que nous concluons cette lecture du livre de Gabriel intitulé « La mort fait partie de notre vie, vivre et mourir pour continuer à vivre, chacun est seul face à la mort ». Nous vous souhaitons, et nous souhaitons à tous, le courage et la force d'écouter la voix de notre conscience, et nous réjouirions de vous retrouver pour la suite de cette série « Se trouver soi-même, parole pour la vie ». Une phrase à elle seule peut nous donner de l'espoir. Au revoir et une salutation en Dieu.